Amen. Voilà, bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2 et verset 20. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. » Une autre lecture. Dans le livre de Jérémie, un petit peu avant. Jérémie 29, 5. Il est écrit « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et on s'arrête là. Amen. Amen. On va prier quelques instants encore pour demander au Seigneur toute sa grâce. S'il te plaît, mon Dieu. Oui. Touche nos cœurs, vivifie nos cœurs, donne-nous encore ton esprit pour comprendre ta parole, peut-être pour recevoir un message de ta part à toi. Je ne veux pas être, Seigneur, l'auteur d'un message, je veux être simplement le canal. Alors s'il te plaît, Seigneur, pourvois, pour notre instruction, pour notre épanouissement, pour notre salut peut-être même, eh bien, à une parole, à quelque chose qui nous convaincra de péché, de justice, de jugement, mais aussi de ton amour, Seigneur. Oui, que toute chose qui vienne d'en haut, Seigneur, puisse découler dans ces moments, que toute grâce, toute bénédiction puisse venir simplement parce que nous aurons eu foi en toi et en ta parole. Merci encore, Père, de nous bénir à cause de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. J'ai lu deux textes. Le premier qui nous montre que Dieu est maître des temps et des circonstances. On l'a lu dans Daniel, et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. » Il va même dire plus tard que c'est lui qui renverse, qui établit, qui rétablit les rois. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il est maître des temps et des circonstances. Et si malgré cela, il laisse à chacun la liberté de choisir et de faire ce qu'il choisit, lui, il tient les rênes, il tient toutes les rênes derrière, et il y a un plan parfait qu'il a mis en place qui va de toute manière s'accomplir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Si on le veut, si on s'y plie, eh bien on va être béni, mais si on ne le veut pas, on va en subir les conséquences malheureusement. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dans Jérémie, on a lu une parole qui disait « Bâtissez des maisons, établissez-vous, faites des enfants, hein, je dis, mariez-vous, établissez-vous, réjouissez-vous, priez pour le bonheur de la vie où vous êtes, en captivité. » Parole étonnante. Jérémie donne une parole de la part de l'Éternel. Les circonstances sont mauvaises. Il s'adresse à un peuple qui est en captivité à l'étranger. Un peuple qui a été enlevé de sa patrie, arraché de sa patrie. Daniel lui-même a été un de ceux qui a été arraché de sa famille. Sûrement que ses parents ont été tués. Une circonstance misérable. Et pourtant, Dieu va donner une parole à ce peuple-là, le peuple hébreu, le peuple juif. Il va leur dire, là où vous êtes, bâtissez,
construisez, multipliez, plantez des jardins, mariez-vous, enfantez, etc. Allez de l'avant, quoi. Allez de l'avant. Avancez dans la vie. Épanouissez-vous là où vous êtes. Priez même pour le bonheur de vos ennemis. Je paraphrase, mais c'est ça. Priez même pour le bonheur, pour la paix de vos ennemis, parce que de leur bonheur, de leur paix, dépendra la vôtre. Alors demandez à Dieu de les bénir, parce que selon comment ils vont être bénis, entre guillemets, eh bien vous allez en subir les conséquences, en recevoir plutôt les conséquences. Il y a une parole extraordinaire là, qui veut dire, voilà, qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés, qu'importe les travers, les épreuves, tout ce que vous pouvez rajouter, qu'importe les crises par lesquelles vous passiez, crise de couple, crise de travail, qu'importe la crise, crise avec les enfants, ils passent par la crise d'adolescence, hein, qu'importe la crise, multipliez, réjouissez-vous, comptez sur le Seigneur, ayez foi, espérez, priez même en faveur de ceux qui seraient même vos ennemis, car de leur bonheur dépend le vôtre. Il est maître des temps et des circonstances. Il y avait des conséquences à cette situation en Babylonie par rapport au peuple juif. Le peuple juif avait désobéi à Dieu. Ils se sont donc, après multiples avertissements, retrouvés en captivité. N'est-ce pas un peu notre situation à nous, hommes et femmes de la terre, sous une certaine domination, un certain esclavage du péché? Est-ce que tous on subit pas les affres du péché, la maladie, d'où elle vient? Du péché originel. Adam et Ève ont péché, depuis la corruption est rentrée dans l'homme, dans le corps humain. Le péché, c'était pas prévu par Dieu, en tout cas c'était pas la volonté de Dieu que l'homme puisse tomber malade. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Vous ne voyez pas où je veux en venir, c'est différent. Dieu n'a jamais voulu ces choses, pourtant on en subit les conséquences. Combien de personnes on apprend des cancers, des AVC, des choses partout comme ça, ça n'arrête pas. Le péché, comme la violence, peut-être que nous-mêmes on est sujet à des excès de violence, peut-être qu'aussi on a subi la violence. Peut-être quelqu'un a été brisé parce qu'il a été violenté. Il a subi des choses comme ça. Toutes sortes de choses, le mensonge, peut-être qu'on est prisonnier du mensonge, mais peut-être qu'aussi on nous a menti, on a été blessé, trahi, etc. On pourrait multiplier les exemples. On est un peu sous un joug. Et il y a comme une condamnation qui est là, etc. Mais Dieu peut dire, et dit à quelqu'un ce soir, qu'il y a la possibilité de s'épanouir, même dans cette vie présente, même dans ces circonstances. Il y a une possibilité d'être nous-mêmes bénis, d'être nous-mêmes, eh bien, avec une croissance, un épanouissement. De nous-mêmes, on peut s'établir sur des choses solides, on peut avancer joyeux dans la vie, plein d'espérance. Pourquoi? Parce qu'on aurait fait la paix avec Dieu. Il y a toutes sortes de textes dans la parole de Dieu qui nous montrent que dans des mauvaises circonstances, une personne peut être bénie si elle fait le bon choix, si elle se met en règle avec Dieu, si elle se soumet à Dieu. Et ce matin, je lisais le livre d'Esther. S'il n'y a pas beaucoup de chapitres, il y en a 10, et le 10e, on ne compte presque pas, il n'y a que quelques versets. Donc 9 chapitres, ça va assez vite. Je l'ai lu, Esther. Cette affaire extraordinaire, je m'arrêterai sur ce livre d'Esther ce soir, beaucoup plus. C'est l'histoire de peuple, pareil, le peuple juif, à une deuxième période d'esclavage, en tout cas deuxième retour, juste avant un deuxième retour. Il y a toutes sortes de menaces. À un moment, on voit même une femme, Esther, qui est prise parmi les jeunes filles vierges et jolies de son pays, en tout cas de sa nation. Parmi toutes les jeunes filles, elle aussi est prise et elle se retrouve à devenir concubine du roi. Parce qu'à la base, elle est juste prise pour faire partie du harem du roi. Vous savez comment ça se passait autrefois? Les femmes étaient prises pendant un temps. Elles faisaient une toilette avec une certaine huile. 6 mois avec une certaine huile, 6 mois avec des aromates, on faisait belle toilette, on se faisait propre, etc. Et puis au bout d'un an, c'est décrit tout ça dans Esther, vous pouvez le lire, je vous encourage à le lire. Au bout d'un an, vous étiez placé dans une autre maison, vous passez la nuit avec le roi, pardon. Et puis, s'il était marqué par la nuit, il vous rappelait d'autrefois. Et si il n'était pas marqué, il vous oubliait pour toute votre vie. Et vous étiez sa concubine pour toujours, jusqu'à votre mort, mais sans plus jamais voir le roi. vous étiez mis dans une deuxième maison. Mais Esther était tellement jolie, elle avait un caractère tellement différent des autres. Elle avait la crainte de Dieu, elle était marquée de quelque chose de différent de cette femme. Qu'elle a même plu à ce roi qui ne connaissait pas Dieu. Elle a plu au roi. Et le roi s'est souvenu d'elle et il a fait d'elle sa reine, la reine. Sa reine. Il a élevé aux yeux de tout le monde, il a fait une fête en son honneur, etc. Alors que c'était une esclave que personne connaissait, elle avait perdu son père et sa mère qui étaient morts, adoptés par son cousin. Puisque Mardoché était le neveu du papa d'Esther. C'est pas grave, réfléchissez, c'est pas. Esther avait ses parents morts et il y a son cousin qui l'a prise pour fille, qui l'a adoptée pour fille et qui l'a élevée. Et alors qu'elle a perdu tout ça, fille adoptive, même plus de parents, à l'étranger, dans un contexte d'esclavage, etc., Dieu a permis à ce qu'elle soit élevée reine. Élevée reine. Aux yeux de tout le monde, une fête en son honneur. Il est dit que tout le monde l'apprécie, etc. Il nous est dit, juste avant qu'elle arrive dans la maison du roi, il nous est raconté qu'elle avait le droit d'emporter tout ce qu'elle voulait de la première maison pour aller dans la deuxième. Tout ce qu'elle voulait, c'était autorisé, c'était comme ça pour les femmes qui allaient vers le roi. Et elle a demandé à l'eunuque, celui qui l'a gardé, « Qu'est-ce que tu me conseilles de prendre ? Je prendrai que ça. » On voit dans son caractère, dans sa vie, que déjà, il y a quelque chose de différent avec les autres. Elle n'est pas attachée aux choses comme ça, etc. Elle a un autre caractère, elle a plu aux eunuques, elle a plu aux serviteurs, elle a plu à tout le monde, et même au roi, elle a été élevée à reine. La seule chose, elle n'a pas dit d'où elle venait. Elle n'a pas dit qu'elle était juive. Elle a gardé ça pour elle. C'était son droit. Pour dire un peu la providence divine, Dieu a pris soin d'elle. Et il y a une image qui m'a frappé et qu'on peut adapter à nous-mêmes encore ce soir, c'est qu'à un moment, cette reine a dû intervenir auprès du roi, a dû venir le voir pour lui faire une demande précise et sérieuse. Et alors qu'elle devait aller voir le roi, elle avait peur parce que quiconque se présentait dans la présence du roi sans y avoir été invité pouvait mourir. Mais Esther devait aller parler. Elle a jeûné, il nous est dit qu'elle a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits, elle et ses servantes. Elle a fait passer un message par son père adoptif à tout le peuple juif pour qu'il jeûne et qu'il prie devant le Dieu Très-Haut pour qu'elle puisse aller parler et que sa vie soit sauve. Mais elle est même partie en disant, et si je dois mourir, je mourrai. Elle a remis sa vie dans les mains de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où le roi l'a vu, il lui a tendu le sceptre. C'est-à-dire, voilà, je te sauve la vie, je t'accepte dans ma présence. Et cette image me rappelle quelque chose, nous qui sommes tirés d'un peuple sous l'esclavage du péché, qui sommes tirés du monde et tout, etc., il nous est impossible d'aller devant la sainteté de Dieu, de nous retrouver dans la présence de Dieu. C'est impossible pour qui que ce soir de dire, moi je mérite d'aller dans la présence du roi céleste. C'est pas possible, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que notre péché nous empêche. Nos origines, ce qui nous habite, le péché, nous empêche, nous prive d'aller dans la sainteté du roi, de Dieu. Nous empêche, nous n'avons pas le droit. Mais Dieu a tendu son sceptre. Dieu a tendu son bras vers nous. Et Jésus, dans la parole de Dieu, est après le bras de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Qui a reconnu Jésus ? Jésus, c'est ce bras qui est tendu vers l'homme. Jésus, c'est cette personne, ce Fils de Dieu qui est venu en chair sur la terre pour sauver les hommes, pour donner sa vie pour nous, pour qu'on puisse être accepté dans la présence sainte de Dieu. Et nous qui étions pécheurs, nous pouvons être lavés, sauvés par le moyen de Jésus, par sa grâce et par le moyen de la foi. Et ce sceptre, cet outil, me fait penser à la croix. Cette croix où Jésus a été pendu. Cette croix qui est là pour nous rappeler que nous étions pécheurs, que nous devions être maudits à cause de notre péché. Le bois, quiconque était pendu au bois était maudit. C'était la loi. Jésus a été pendu, maudit pour nous, pour qu'on soit sauvés, épargnés de la condamnation. Quelle belle image de cette femme qui devrait mourir, qui mériterait la mort pour avoir osé entrer dans la présence de Dieu et qui a été graciée par le roi lui-même. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il a donné son fils. Pourquoi ? Parce qu'il nous a tant aimés. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a sauvés, nous a graciés. Et je voudrais mettre en évidence, premièrement, le fait que même si personne ne mérite la grâce de Dieu, si on est tous dans un même contexte, un monde qui va de mal en pis, un monde qui ignore totalement le bon sens, qui va à l'inverse du bon sens. Quand on regarde les procès d'aujourd'hui, c'est celui qui a fait du mal presque qui est récompensé. Et celui à qui on a fait du mal qui est repris. Je voyais un procès il y a un moment où il était dit qu'une jeune fille avait été violée. Elle porte plainte. Puis en suivant l'enquête, on lui disait comment étiez-vous habillé et tout, en jean. Ah bon, quel jean? Ok, je ramène le jean, elle a ramené le jean. Et l'avocat de la partie adverse a réussi, à cause du jean, à soi-disant prouver qu'il était impossible à l'homme de la violer. Parce que le jean qu'il a porté était tellement serré et moulant que forcément il a été enlevé volontairement par la fille. Et de la manière dont elle a raconté que ça s'est fait, c'était pas possible. Pour vous dire où est-ce qu'on va. Pour vous dire aussi qu'il faut faire attention. Chacun. Mais il y a des choses, des non-sens. On est dans une circonstance un peu mauvaise qui nous dessert. Et pourtant, on peut vivre la grâce de Dieu, on peut vivre dans la paix bénie de Dieu. Quelqu'un parlait de la paix un jour. La paix. Et il y a cette image, un jour, un homme rentre dans une exposition de tableaux. Et il voit chaque tableau, puis au bout d'un moment, il s'arrête devant un. Et il voit le titre, et il voit marqué « La paix ». Et il y a un autre aussi tableau, juste à côté, qui est accroché, et il regarde le titre, et il y a marqué « La paix ». Les deux ont le même titre. Mais quand on regarde, il y en a un, c'était une prairie avec une gazelle qui buvait au bord de l'eau, etc. Voilà. Quelque chose. Même pas de vent, avec des feuilles qui tombent, rien du tout, même pas la paix, le beau soleil, etc. Et le deuxième tableau, c'était un peu comme les chutes du Niagara, vous voyez. C'était quelque chose avec tout qui grouillait, tout qui était là, des morceaux d'arbres qui tombaient, etc. Et puis il y avait tout en haut des rochers qui arrivaient, qui allaient tomber, etc. Puis la personne impressionnée, elle dit, mais je vois les tableaux, ils n'ont rien à voir, et pourtant ils portent le même titre. Il fait appeler une des personnes, et dit, expliquez-moi ce tableau, je ne comprends pas. Celui-là, la paix, ok, mais l'autre, je comprends pas. Et puis la personne, elle dit, vous n'êtes pas approché d'assez près. Il s'approche, il ne voit rien. Il dit, approchez-vous encore. La personne, elle s'approche. Et puis d'un coup, sur le tableau où il y avait cette sorte de chute de Niagara, où il y avait cette chute d'eau, il commence à voir tout en haut, sur un rocher, un oiseau avec son nid qui chantait sur ce rocher. Pourtant, tout autour de lui, il y avait tous ces troncs qui tombaient, toute cette eau qui jaillissait, il y avait toutes ces choses qui étaient là, qui étaient emportées par l'eau. Mais lui, il avait choisi de faire son nid parce qu'il savait que sur ce rocher, il ne craignait rien. Et c'est ça aussi la paix. À la fois quand tout va bien, mais à la fois quand il y a des épreuves, il y a un moyen de trouver la paix. Le tout, c'est d'être assis sur le bon rocher. Et Jésus va dire, celui qui met en pratique ma parole est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et le moyen d'être vraiment en paix malgré les circonstances, c'est d'avoir bâti sa vie sur la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il y a un moyen d'être en paix même dans les mauvaises circonstances. Mais ce que je remarque aussi de l'histoire d'Esther, c'est que notre Dieu n'est pas le Dieu du moins, mais le Dieu du plus. Que notre Dieu n'est pas le Dieu de la division, mais le Dieu de la multiplication. Et combien de fois, nous qui avons découvert l'amour de Dieu, nous qui vivons une certaine paix, une certaine grâce, l'assurance du salut, combien de fois on se contente de ce qu'on a tout simplement. Et on ne cherche pas à aller plus loin avec Dieu. Je remarque qu'Esther, d'esclave, elle est passée à reine. Je remarque que Mardochée, si vous relisez l'histoire, il est passé d'un total inconnu à première personne du royaume après le roi. Comme Daniel. Première personne après le roi. Je remarque que le peuple juif, qui subissaient le racisme, l'ethnofascisme, pour mettre des mots contemporains sur ce qui se passait là, qui subissaient la haine de la part de l'autorité en place, autre que le roi bien sûr, cet homme qui s'appelait Aman, qui avait en haine Mardoché puisqu'il ne voulait pas l'adorer, en tout cas se prosterner devant lui, même histoire que les amis de Daniel. Il ne veut pas se prosterner devant Aman, ça crée une haine dans le cœur de cet homme, qui était lui le premier après le roi à la base. Et du coup il va avoir une haine contre lui, et puis d'un coup il va avoir une haine contre les juifs. Il dit ça ne suffit pas de le tuer à lui, je veux tuer tous les juifs. Et ce texte nous raconte que cet homme va commencer à faire en entourloupant, avec un mot contemporain encore, en usant de Trafalgar envers le roi, il va faire un édit du roi pour tuer tous les juifs en tel jour, telle date. Et au passage, Mardoché aussi. Et comment Dieu va susciter des circonstances pour sauver son peuple qu'il avait aimé et son enfant, Mardoché, qui avait refusé d'adorer quelqu'un d'autre. Il y a la providence divine envers ceux qui se confient en lui, qui l'acceptent comme roi, à Dieu. Mais il y a aussi une grâce. Dieu élève. Dieu, il donne à celui qui a besoin, mais il donne aussi des largesses pour qu'on fasse des libéralités. Il donne en abondance à ses enfants pour qu'ils puissent bénir les autres. Et combien de fois nous on se suffit de ce qu'on a besoin, tout juste, de ce qu'on vit à l'église. Je viens, je m'assois, puis je repars. Ah, j'ai bien mangé ce soir, ou alors ah, c'était nul. Il n'était pas inspiré, Jérémie, ce soir. Ou c'était petit, hein. C'était... Vous voyez, quelquefois on se contente un peu, on est là. On est dans le stade, on vient voir un match. Et le Seigneur, il voudrait qu'on soit tous des non pas des spectateurs, mais des acteurs, des personnes sur le terrain. Venir à l'église pour apporter aussi ce que moi j'ai reçu, apporter ma prière, apporter ma contribution, apporter ma voix pendant les chants, apporter tout ça. Et je vois que ce peuple, en refusant de se soumettre à l'idolâtrie, à toutes sortes de choses, a reçu l'approbation de Dieu. Et ce peuple a été tellement renommé après, le peuple juif, qu'il nous est écrit dans ce texte que des juifs, des hommes et des femmes étrangères à ce peuple ont voulu se faire juifs par crainte des juifs. Alors, ne vous faites pas chrétien par peur des chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais tellement il y avait une approbation, tellement il y avait une renommée, que rien ni personne n'a pu détruire. Et c'est pas nouveau. La Bible est plus actuelle que jamais. Il y a quelques 60 ans, 65 ans, 66 ans, 7 ans, il y avait la fin d'une guerre contre les juifs. Ça s'est renouvelé, ça s'est jamais arrêté. La Deuxième Guerre mondiale, avec volonté d'exterminer le peuple juif, est-ce qu'on y est arrivé? Pas du tout. Parce que lorsqu'on est le peuple de Dieu, le Seigneur nous garde, nous protège. Mais Dieu voudrait qu'on aille plus loin avec lui, qu'on cherche encore plus. Comme je l'ai dit, Esther, elle a jeûné, elle a prié pour pouvoir avoir la grâce de Dieu et le secours de Dieu pour que ce roi ait le cœur fléchi. Mardoché, qui devait être pendu à un moment, vous le lirez. Mardoché, à cause de la haine qui était venue dans le cœur d'Aman, a failli passer un matin. Un matin, le bois était levé pour qu'il soit pendu. Aman avait préparé tout ce qu'il fallait pour tuer Mardoché et le pendre. Et le roi, il n'a pas dormi de la nuit. Tiens. Il a dit, est-ce que vous pouvez ouvrir les annales? Puis il a remarqué que Mardoché avait sauvé la vie du roi à un moment. Il a demandé, est-ce qu'on a honoré cet homme pour ce qu'il a fait? Non, pas du tout. Et le matin où Mardoché devait être pendu, le roi fait appeler Aman, juste avant qu'il pende Mardoché, et il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour honorer un homme? Aman, il dit, mais de qui il parle? Ben de moi, il n'y a que moi qui peux être honoré sur la terre. Et puis il se dit, super, alors vous prenez le cheval royal, vous mettez la personne dessus, vous lui donnez votre manteau. Vous savez le cheval qui a la couronne royale, hein, celui-là, avec qui on met une couronne royale, vous mettez bien celui-là, le manteau du roi, là, bien beau et tout. Et puis vous prenez quelqu'un qui tient le cheval avec cet homme dessus et qui crie, voici l'homme que le roi veut honorer. Et qui fait le tour de la ville comme ça. Et lui, il pense que c'est lui qu'on va honorer. Et le roi, il lui dit... Eh bien, tu vois, Mardoché, celui qui a sauvé ma vie, tu vas aller le voir et c'est toi qui vas passer devant lui et qui va dire « Voici celui que le roi veut honorer !» Et cet homme qui voulait pendre Mardoché juste avant, il se retrouve quelques minutes ou quelques heures après, peut-être une demi-heure, une heure après, avec Mardoché sur le cheval du roi et lui devant qui dit « Voici l'homme que le roi veut honorer et tout !» Et il croyait que les honneurs étaient pour lui, humilié au maximum, et par lui, à cause de lui. C'est lui qui s'est embourbé dans ses problèmes. Vous voyez ? Le Seigneur est prêt à retourner les circonstances. On n'a pas à craindre les circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Et Mardoché a été sauvé comme cela. Mais Mardoché voulait plus que simplement être en liberté dans son pays. Ne pas trop attirer le regard. Il voulait honorer son roi, honorer son Dieu, en refusant de se prosterner devant un homme, mais en gardant cela pour son Dieu. Il voulait plus qu'une simple pseudo-liberté. Il voulait une foi, il voulait une vie chrétienne, entre guillemets, une vie sérieuse, une vie saine devant Dieu, une vie qui honore Dieu. Il avait soif de plus. Il a été élevé à premier ministre, je ne sais pas comment on peut dire, premier après le roi, et alors que le peuple juif devait être détruit à cause du premier édit dont j'ai parlé, Mardoché a pu faire passer un deuxième édit qui autorisait les Juifs à se défendre. Et à cause de ça, les Juifs n'ont pas été exterminés, ils ont pu continuer à vivre. Dieu a créé des circonstances. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif a commencé à se sentir oppressé, etc. Et ils ont crié à Dieu, certains ont crié à Dieu pour être sauvés. On en a les témoignages qui nous sont restés. Se sont tournés vers Dieu. Ils ont dit, s'il te plaît, secours-nous, aide-nous. Certains ont rencontré le Seigneur Jésus dans ces moments-là. Ils ont crié à Jésus, s'il te plaît, donne-nous une solution, donne-nous une solution. Et un homme a réussi à créer quelque chose, une invention scientifique dont les Allemands avaient besoin ou dont un pays avait besoin. Et il a dit, je vous donne mon invention, je vous accorde les plans de mon invention, ou la formule en tout cas, si vous autorisez mon peuple à rentrer chez lui. Et grâce à cette invention que cet homme, ce juif, avait fait, Dieu a permis les circonstances pour que le peuple juif, certains puissent rentrer chez eux. Et après avoir prié, supplié Dieu dans une circonstance où tout paraissait impossible, Dieu a ouvert des portes pour qu'une partie du peuple puisse rentrer dans son pays. Dieu est fidèle. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je fais partie du peuple de Dieu ? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça me suffit ce que je vis ? Quelques gouttes, quelques miettes de pain ? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus ? Est-ce que Dieu n'est pas riche pour moi ? Pour que je fasse jour après jour des expériences, pour que jour après jour, je grandisse avec lui, j'en sache plus sur lui, je vive des choses pour pouvoir raconter. Imaginez-vous, vous parlez à quelqu'un, « Oui, crois au Seigneur Jésus, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ?» Il m'a sauvé, d'accord. Et aujourd'hui, quoi d'autre ? Bien, il y a 10 ans, il m'a guéri. Ah ouais, super, c'est bien. Et aujourd'hui ? Ah, mais ça fait quelques années, je ne vis plus rien. Ah bon ? Il t'a laissé ? Non. Mais il est mort ? Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu est vivant, aujourd'hui. Jésus est vivant, aujourd'hui. Et il peut nous faire vivre des expériences jour après jour, après jour. Après jour. Et qu'importe les circonstances, ça ne change rien. Le Seigneur veut nous faire vivre des expériences jour après jour avec lui et nous faire grandir. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Tout simplement, ne vous laissez pas envahir par le désespoir, le découragement à cause des circonstances. Et ne vous laissez pas endormir à cause de la pseudo-liberté que vous avez trouvée en Dieu. Moi, je sais que je vais au ciel. Ça me suffit. Puisqu'il est maître des temps et des circonstances, j'ai rien besoin de faire. J'attends le jour où je partirai au ciel. Ça suffira. Non, le Seigneur veut vous utiliser comme des instruments de bénédiction, de témoignage, pour qu'un maximum puisse être sauvé et trouver le chemin du salut. Voilà, tout simplement. Merci Seigneur encore.